Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Gros plan sur la Turquie. Ce soir, les tours de vis succèdent aux tours de vis. Depuis le putsch raté du mois de juillet, le gouvernement ne cesse d'élargir sa campagne de répression contre toutes les voix d'opposition. Kurdes, avocats, professeurs d'université, fonctionnaires, journalistes, intellectuels, artistes. Des dizaines de milliers de personnes sont concernées par ces purges qui prennent différentes formes. Des limogeages, des arrestations, des emprisonnements. Tous les moyens sont bons pour réduire au silence ceux qui dénoncent une dérive autoritaire du président Erdogan. L'arrestation par la police en début de semaine d'une douzaine d'employés, dont le rédacteur en chef d'un quotidien très connu, Cumhuriyet, n'est qu'une étape de plus. 170 médias ont été fermés depuis le mois de juillet.
Nous sommes désormais sous le joug d'un système farfelu et dangereux. Le pouvoir tente aujourd'hui d'éliminer ceux qu'il déteste. Et le simple fait de dire ça aujourd'hui nous est interdit. Tu ne peux pas tweeter ça, tu ne peux pas dire ça à la télévision.
L'opération de police au journal Cumhuriyet a toutefois suscité une émotion toute particulière, notamment du côté européen. Martin Schulz, le président du Parlement, a estimé qu'une nouvelle ligne rouge avait été franchie. Votre ligne rouge ne nous intéresse pas ici, c'est notre peuple qui définit les lignes rouges, lui a répondu 24 heures plus tard le Premier ministre turc, qui quelques jours plus tôt brisait un autre tabou européen. Impossible retour de la peine de mort, s'il y a consensus, pourquoi pas, a-t-il expliqué en substance. Alors que le processus avait été lancé en 2005, la Turquie d'Erdogan a-t-elle définitivement tourné le dos à l'Europe? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Bayram Bachi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques et en civilisation arabo-islamique. Au série Sciences Po, vous êtes spécialiste de la Turquie. Notre deuxième invité, Ali Kazan-Sigil, politologue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi le directeur de la revue Géopolitique Anatolie. Alors messieurs, je voudrais qu'on commence par la peine de mort, hein, puisque c'est cette dernière ligne rouge qui a été franchie. Faut-il, Ali Kazan-Sigil, lire la volonté de la réintroduire en Turquie comme une provocation à l'égard de Bruxelles, à votre avis ?
On peut répondre qu'il y a deux motifs probablement qui motivent le pouvoir. Premièrement, effectivement, c'est de tenir tête à l'Europe, montrer en quelque sorte que l'orientation de la Turquie qui a été vers l'Occident, vers l'Europe pendant longtemps, pourrait changer ou était en train de changer, etc. Et deuxièmement, c'est de montrer que le pouvoir est fort, il peut changer les choses, faire ce qu'il veut, ce que veut le peuple entre guillemets. Voilà, il y a ce genre de motivation.
Ouais, un mélange de messages extérieurs et de mesures et plus démagogiques, vous voulez dire.
Démagogiques. En tout cas, de toute façon, dans ce gouvernement et Erdogan en particulier, calcule toujours ses actions, ses paroles, ses discours selon, disons, les exigences ou les intérêts de la politique intérieure et de la politique extérieure. Et très souvent, la politique extérieure est instrumentalisée au service du politique intérieure.
Ce que vous voulez dire, c'est que Recep Tayyip Erdogan sait que c'est un sujet tabou, sait qu'il peut être exclu du Conseil de l'Europe et donc mettre en péril tout ce processus qui a été lancé. Bayram Balci, Erdogan sait pourtant que justement la peine de mort avait été abolie, je crois que c'est en 2005 ou 2004 très officiellement, parce que la Turquie voulait rentrer dans l'Union européenne. C'est donc tout un symbole que d'en reparler aujourd'hui.
Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour lui, étant donné qu'on est dans un contexte où la Turquie n'est pas du tout malheureusement prête de rejoindre l'Union européenne, donc quelque part, le critère européen pour lui ne compte pas. Dans ces conditions-là, il peut facilement aborder la peine de mort. Mais je pense qu'il faut mettre la question de la peine de mort dans un contexte de politique intérieure en Turquie, parce qu'on est dans un contexte, il a toujours la volonté de présidentialiser la constitution, le système politique en Turquie, et je crois que ça fait partie des marchandages avec le parti nationaliste au sein du Parlement, parce qu'il a besoin de ce soutien de ce parti nationaliste qui a toujours été partisan de la peine de mort, et quand la peine de mort avait été levée, en fait, le parti nationaliste avait accepté, mais vraiment à contre-cœur. Donc on a le sentiment, en fait, que ça fait partie du marchandage qu'il a avec ce parti nationaliste dont il a besoin de soutien pour aller vers une réforme de la constitution qui apporterait un système beaucoup plus présidentiel. C'est ce dont rêve Erdogan depuis des années.
Ali Gazan-Sigil.
Oui, je voudrais dire dans ce sens-là quelque chose, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a, d'après certains journaux, certaines analystes en Turquie, il y a au sein de son parti une sorte de fronde discrète contre lui. Et il n'est pas sûr absolument d'avoir tous les votes de son parti,
oui,
de ses députés.
Pour expliquer aux auditeurs, il lui manque là, a priori, dans la
majorité
quelques hommes.
Quelques hommes, et cela peut empêcher à la fois la nouvelle constitution et peut-être même la peine de mort. Donc il a un grand besoin du parti ultranationaliste. Voilà.
Alors, l'autre front sur lequel Recep Tayyip Erdogan met de plus en plus de distance entre lui et l'Europe, c'est le champ des libertés publiques. Donc, quelques chiffres pour rappeler à nos auditeurs. Depuis le mois de juillet, limogeage ou suspension de près de 100 000 fonctionnaires, président d'université désormais nommé directement par le chef de l'État. Avant, ils étaient élus. 35 000 personnes arrêtées. Et puis, tous ces médias, plus de 170, qui ont été fermés. Bayram Balci, est-ce que cette purge, c'est celle aujourd'hui d'un dictateur?
Je pense qu'elle montre avant tout qu'on est dans un contexte où le régime a perdu et est complètement paranoïaque. C'est-à-dire que depuis le coup d'État avorté, je pense qu'on est dans un contexte où le régime a ultra peur. Et dans ces conditions-là, je pense qu'on a le sentiment qu'on a un régime fort, mais en fait, il est tellement faible qu'il est en train de purger d'une manière disproportionnée un peu partout, parce que ça montre à quel point il est isolé et il a peur. Donc effectivement, c'est un régime qui se renforce de plus en plus. Alors on peut dire autoritaire, ultra-autoritaire, dictatorial. Mais en tout cas, ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est assez grave. Et je pense malheureusement qu'à moyen terme, il n'y a pas encore de possibilité qu'on sorte de cette situation-là, parce que à l'intérieur de la Turquie, il y a encore beaucoup de polarisation et le contexte régional fait que ça alimente cet autoritarisme du régime. Et malheureusement, face de lui, l'opposition est faible et l'Europe dans tout cela n'est pas suffisamment forte pour exercer des pressions d'une manière crédible sur la Turquie et dans ces conditions-là.
Et est-ce que la Turquie d'Erdogan a sa place, selon vous, dans l'Union européenne d'aujourd'hui?
Dans ces conditions-là, bien évidemment que non. Et là, je pense que les Turcs ont tellement compris que, de toute façon, il n'y avait aucune volonté sérieuse de la part de l'Europe d'inclure la Turquie dans l'Union européenne. Dans ces conditions-là, je pense qu'Erdogan, il se croit tout permis. Et il y a quelques années, on était dans une logique où l'Europe pouvait à la fois avoir un bâton et des carottes pour pouvoir gérer en quelque sorte sa relation avec la Turquie. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. À part du moment, on a été très clair avec la Turquie pour dire que la Turquie ne sera pas, et ça a été dit malheureusement d'une manière un peu humiliante, ce qui a servi aussi Erdogan dans sa dérive autoritaire. Donc dans ces conditions-là, je pense que quelque part, je pense qu'on y a un peu contribué. On a un peu trop rompu rapidement avec la Turquie. À l'heure actuelle, ils sont tout permis et malheureusement, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour le tenir.
Ali Kazan-Sigil, pour vous, ce qui se passe aujourd'hui sur le front des libertés publiques en Turquie, c'est le signe de quoi? C'est le signe d'un parti qui devient, d'un État qui devient un État fasciste, on a entendu ce mot. Vous parleriez d'une dictature, vous parleriez d'un pays qui finalement est aussi dans un contexte régional particulier. Comment vous l'analysez?
Écoutez, je pense que c'est un régime qui a pris cette voie, cette dérive, parce que Erdogan et son entourage avaient beaucoup d'ambition pour modifier un peu la Turquie, la République, de cette République kémaliste, laïque, occidentalisée, enfin tournée vers l'Occident, tournée toute la société, l'État, vers le Moyen-Orient, davantage vers l'islam, etc. Et Erdogan s'est rendu compte que malgré les victoires électorales que son parti remporte depuis 2002, il y a dans la société turque, en partie grâce à ses réformes d'ailleurs, des années 2004-2007-2008, la société turque s'est structurée.
Avant d'avoir été président, il a longtemps été Premier ministre.
Il a été Premier ministre et il a fait des réformes. Il se présentait comme démocrate conservateur. Il était pour l'Europe. C'est lui qui a commencé les négociations avec l'Europe. Donc il a beaucoup aidé la société à s'émanciper.
Donc c'est le contre-coup ce qui se passe aujourd'hui.
Et alors ensuite, il s'est d'un seul coup réveillé en 2013 en particulier, lorsqu'il y a eu ces événements à Taksim. On appelle l'événement Gezi. Là, il s'est rendu compte que dans la société, il y avait, parce que c'était un événement unique en Turquie, beaucoup de gens ont appelé ça le mai 68 turc, il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de parti, pas de syndicat. Ce sont des individus qui sont venus, des centaines de milliers de personnes à Istanbul, ça s'est répandu dans les grandes villes de l'Anatolie aussi, ça a été un mouvement de protestation contre l'intrusion du pouvoir, des leaders, de politiques dans la vie des gens.
Erdogan. Et là, selon vous, Erdogan, il y a vu une trop grande européanisation de la Turquie. Voilà. Il s'est dit, attention, c'est pas ça ce que je veux.
C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que son projet disons, d'ingénierie culturelle et sociale et politique dont je parlais au début, c'est-à-dire modifier, disons, l'esprit des gens, la façon de vivre, etc., et il n'allait pas réussir facilement en étant un leader démocratique, etc. Alors du coup, de plus en plus, il est devenu autoritaire, et aujourd'hui, c'est un régime, peu importe les grands noms, fascisme, c'est un régime où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Je veux dire, les gens sont arrêtés par la police, mis en prison pour des mois et des mois sans jamais passer devant un juge. D'ailleurs, l'appareil judiciaire a été totalement décapité. Il y a eu 4000 juges qui ont été fichus à la porte. Tous les journaux qui faisaient de l'opposition, dont Cumhuriyet est le dernier exemple, ont été fermés ou sous pression. Enfin, donc, c'est un pays où il n'y a ni démocratie, ni liberté, ni droit. Alors, effectivement, on peut appeler ça du fascisme.
Alors, Bayram Balci, je voudrais que vous répondiez à ce qui vient d'être dit. C'est intéressant, cette notion de 2013, qui s'est passé Place Taksim, Parc Gezi. Est-ce que pour vous, c'est aussi là peut-être une rupture dans la vision qu'avait Erdogan de se projeter vers l'Europe?
Je pense que 2013, effectivement, c'est une période de rupture fondamentale de l'histoire, dans l'histoire récente de la Turquie. Alors, je pense que 2013, il faut aussi mettre les choses dans le contexte régional. 2013, c'était en juin 2013. Or, on est dans un contexte où, en Égypte, un pays qui ressemble beaucoup à la Turquie, Mohamed Morsi, donc le chef des frères musulmans, qui était au pouvoir depuis même pas un an, il tombe du pouvoir, donc il y a un coup d'État contre lui. Et je pense que dans l'esprit de Erdogan, il a l'impression, en fait, que derrière Gezi Park, il y a à peu près la même chose, qu'il y a un projet de coup d'État contre lui. Et quelque part, c'est ce qui l'a rendu complètement paranoïaque. Donc, je pense que la paranoïa commence là. On est aussi dans un contexte où la politique de la Turquie en Syrie est complètement enlisée, où il y a des effets, un impact, il y a plusieurs séries beaucoup d'impacts négatifs de la crise syrienne sur la Turquie. Donc là, on a le sentiment, en fait, que Erdogan, alors qu'il y a pas si longtemps que ça, jusqu'en 2011, on avait le sentiment qu'il était un peu le champion du Moyen-Orient, la Turquie, elle va en poule.
Il avait une image très moderne aussi, très longtemps, parce qu'il a fait des grandes réformes pour la Turquie.
Évidemment. Et ce qui est malheureux, c'est qu'à l'heure actuelle, depuis 2013, en fait, il est en train de massacrer toutes les choses positives qu'il avait mises en place lui-même, en fait. L'ouverture sur la question kurde, le rapprochement de la Turquie avec l'Europe, modernisation des institutions, le renvoi de l'armée dans ses casernes.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, plutôt que d'avoir tourné le dos à l'Europe, la Turquie a tourné le dos à la modernité?
C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je pense que, moi, je pense que j'ai envie d'expliquer la dérive autoritaire en Turquie. Non pas uniquement, spécifiquement par la personnalité, le caractère d'Erdogan. Parce que cet homme aujourd'hui autoritaire, il a été moderne. On l'a dit tout à l'heure, il a été modéré, il a été une force de modernisation et de pays. Il a été modeste, il a été pragmatique, il a démocratisé dans certaines mesures la Turquie. Or, à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui est complètement autoritaire. Donc je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi. Et je pense que c'est pas dans sa personnalité, c'est le contexte. Dans un contexte, à une époque où il y avait une lueur d'espoir pour la Turquie de devenir européenne, il y a cru, il a marché. Une fois qu'il a vu que ça ne marchait pas, il s'est retourné vers autre chose. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, là, il est en train de devenir nationaliste, ultranationaliste, alors qu'à l'époque, à l'origine, il ne l'est absolument pas. Il est plutôt islamiste.
Alors, vous venez de dire l'Europe qui marche pas. Justement, c'est aussi une de mes questions. Ali Kazansigil, est-ce que, à votre avis, ce retournement de situation, ce revirement non-européen de la Turquie d'Erdogan, c'est aussi dû à une forme de crise de l'Union européenne ou pas du tout? Est-ce que le Brexit, est-ce que la crise des réfugiés, enfin la difficulté à la gérer, ce sont aussi des choses qui comptent pour Erdogan dans cette volonté de se projeter dans l'Europe?
Je pense que Erdogan avait pris sa posture vis-à-vis de l'Europe avant Brexit. Bon, mais il est vrai que...
Mais la crise du fonctionnement des institutions existe depuis longtemps.
Voilà. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs, disons, facteur négatif vis-à-vis de l'Europe aux yeux des Turcs. D'abord, au début, comme on l'a dit, à un moment où la Turquie faisait des réformes très extraordinaires pour un pays comme ça, l'Europe a rejeté, a eu un discours de rejet. Et ensuite, par la suite, la Turquie s'est rendue compte que c'est cette union qui a fait de grandes choses, était en train de se désintégrer, d'être paralysée. Et finalement, l'Europe a perdu de son attrait. Mais nous n'oublions pas des choses. Par exemple, en Turquie, la Turquie, c'est un pays qui se développe, qui avait une croissance forte dans les années 2000. C'est un pays qui a besoin d'investissements étrangers. Et 70%, quelque chose comme ça, des investissements étrangers en Turquie viennent de l'Europe. Donc la Turquie a besoin de l'Europe.
Alors c'est justement ce que j'allais vous demander. Tout à l'heure, je vous demandais, est-ce que l'Union européenne va aller vers l'Europe? Vous me disiez, pour l'instant, elle n'y a pas sa place, mais est-ce qu'elle doit y avoir sa place? Est-ce que la place de l'Union européenne, de la Turquie, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est dans l'Union,
dans
à votre
l'Union
avis
européenne. Ben, c'est-à-dire que l'Europe se ressaisit, redevient une communauté qui fonctionne, qui est de nouveau présente sur la scène mondiale. Aujourd'hui, l'Europe est absente de la scène mondiale. Donc, à ce moment-là, la Turquie peut de nouveau... rien n'est définitif, finalement, dans tout ça. En plus, ce pouvoir n'est pas définitif.
À plus long terme, vous le souhaiteriez, à votre avis.
Ah oui, bien sûr.
Bayram Balci, vous êtes d'accord? Vous pensez que la Turquie a des choses à prendre en Europe et l'Union européenne aussi à prendre en Turquie?
Bien évidemment. Mais à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a une crise, pas seulement en Europe, mais d'une manière générale dans le monde occidental, je pense que le fait que ce modèle libéral démocratique soit en crise ne fait que renforcer l'autoritarisme dans beaucoup de pays. Et c'est qu'un pas hasard, quand je dis en Europe, qu'on a quand même une certaine montée des mouvements démagogiques, nationalistes. Le fait que aux États-Unis, on a quelqu'un comme Trump qui est au seuil du pouvoir. Je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte là. C'est pas dans un contexte pareil que on aura des pays comme la Turquie qui ont toujours eu des problèmes de démocratisation. C'est pas dans un contexte comme ça.
En même temps, ça pourrait être un symbole fort que d'avoir un pays à majorité musulmane qui rentre dans l'Union européenne.
Tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'à part du moment où on n'est pas capable, c'est-à-dire que l'Europe est tellement faible, c'est qu'en fait, elle ne peut pas servir de locomotive, de moteur pour cette mondialisation de ces pays qui sont dans son voisinage. Et dans ces conditions-là, moi, je suis assez pessimiste. Il faudrait que d'abord que l'Europe se réveille, se ressaisisse, et ensuite elle pourrait peut-être avoir un impact positif, un effet d'entraînement sur les pays qui sont ses voisins, et la Turquie est un exemple particulièrement intéressant.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je voudrais quand même qu'on parle de l'opinion turque. Ali Kazancıgil, vous le disiez juste avant l'émission, hein, pour être clair avec nos auditeurs, c'est difficile de savoir aujourd'hui où en est l'opinion turque par rapport à l'idée européenne. Vous le percevez comment? Vous pensez qu'au fond, aujourd'hui, les Turcs ont envie d'Europe ou au contraire se détournent, vont, comme le régime, plus vers le Moyen-Orient?
Mais je pense que ça dépend aussi groupe on parle en Turquie, c'est-à-dire que les élites urbaines éduquées, hautement éduquées, occidentalisées sont bien sûr toujours pour l'Europe. Le reste de la population est probablement aujourd'hui indifférente, sinon en partie hostile. Mais tout cela peut changer. Il faudrait que l'Europe à la fois se ressaisisse, améliore ses relations avec d'autres pays aussi, mais avec la Turquie aussi. Quant à la Turquie, la Turquie n'est pas condamnée à subir un dictateur. Un jour ou l'autre, ça changera. Mais il y a eu quand même beaucoup d'acquis dans ce pays. Il y avait hier soir sur Arte, je crois, sur une des chaînes, un programme de télévision sur les artistes, les intellectuels et tout. Il y a une vie intellectuelle extrêmement active, artistique extrêmement active. Et donc, la Turquie continue à être un pays dynamique. Il n'y a pas cette espèce de pessimisme qu'on voit au sein de l'Union européenne.
C'est donc un vous pays restez profondément optimiste, Bayram Balci?
Moi, je suis optimiste. Je pense qu'à l'heure actuelle, le contexte régional est tellement compliqué. Il faut attendre encore quelques années, et je pense que Erdogan, ce sera une parenthèse, et je pense qu'après lui, malheureusement, ça va durer encore quelques années. Je pense que la Turquie va se ressaisir et qu'elle redeviendra un pays de rayonnement et moderne comme il l'a été il y a quelques années.
Et qu'elle regardera peut-être vers Bruxelles.
Probablement, je pense que là-dessus, ouais, moi, je suis assez optimiste. En fait.
Eh bien, on restera sur cet optimisme. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, Bayram Balci et Ali Kazancıgil. Merci également à Sigrid Azeroual. À lundi.